monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide et Morgane Guériec en votre compagnie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique au sommaire en ce mardi 5 mars 2019.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel valide la réélection de Macky Sall.
Le gouvernement burundais ferme le bureau des droits humains de l'ONU à Bujumbura.
Situation toujours très tendue en Algérie. Les manifestations se poursuivent en dépit des promesses de Bouteflika.
Des chercheurs confirment qu'un deuxième patient atteint du sida s'est remis de cette maladie.
Dans la partie magazine, plein feu sur le retour du spectre de la pénurie au Zimbabwe.
Le pain est maintenant trop cher. Parfois, nous prenons de la bouillie, des patates douces ou des légumes verts. Si nous pouvons avoir du pain une fois par semaine, ça va.
Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a, sans surprise, proclamé ce mardi la réélection du président Macky Sall au premier tour de la présidentielle du 24 février et ses quatre adversaires ayant renoncé à contester les résultats provisoires. De Dakar, c'est Dina Bagay.
C'est sans surprise que la plus haute juridiction du pays a validé la victoire au premier tour du président sortant Macky Sall. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats déjà annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Puisqu'il n'y avait pas de recours déposé par les candidats arrivés derrière le président sortant, le Conseil constitutionnel a donc proclamé immédiatement les résultats définitifs. Les mêmes que ceux annoncés jeudi dernier par le juge Demba Kanyi, premier président de la Cour d'appel de Dakar. Il faut quand même noter deux changements. Macky Sall, qui avait été crédité de 58,27% par la Commission nationale de recensement des votes, se retrouve finalement avec 58,26%. Son dauphin Idrissa Seck passe lui de 20,50% à 20,51%. À part cela, aucun changement n'est à noter par rapport aux résultats provisoires. Ousmane Sonko est troisième avec 15,67%, Elhaje Sall est quatrième avec 4,07% et Meddy Kenyan arrive cinquième avec 1,48% des voix. Macky Sall est donc réélu officiellement président de la République du Sénégal pour une durée de 5 ans de 2019 à 2024. Juste après cette officialisation de sa victoire, le candidat Macky Sall a annoncé qu'il va faire face à la presse. Ce sera sa première sortie depuis le jour du scrutin, ce avant de donner rendez-vous pour sa prestation de serment prévue la première semaine du mois d'avril. À Dakar, Sedina Bagay pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, deux soldats et un milicien ont été tués dans l'attaque par des Maï-Maï d'un camp militaire à Butembo, dans l'est du pays, tandis que quatre civils ont été tués à Goma, capitale du Nord Kivu. Leurs corps ont été retrouvés aujourd'hui. Butembo est visé depuis quelques semaines par des attaques d'hommes armés, attaques qui ont même perturbé les opérations de riposte contre la 10e épidémie d'Ebola qui sévit dans la région depuis 7 mois. Quant aux auteurs des tueries de Goma, ils n'ont pas encore été identifiés.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé ce mardi avoir été obligé de fermer son bureau au Burundi après 23 années de présence dans ce pays à la demande du gouvernement burundais. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
C'est avec un profond regret que nous avons dû fermer notre bureau au Burundi, a déclaré Michel Bachelet du Haut Commissariat de l'ONU, précisant que le bureau a été fermé le 28 février. Le gouvernement a demandé la fermeture du bureau de l'ONU le 5 décembre, selon le Haut Commissariat, disant que le pays a fait suffisamment de progrès pour mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme. Madame Bachelet a relevé que les avancées en matière de droits de l'homme ont été mises en péril depuis 2015. Elle s'est dite déçue par le manque de coopération de Bujumbura. Depuis janvier, l'ONG Handicap International présente au Burundi depuis 1992 a quitté ce pays en raison de l'obligation faite par le gouvernement du fichage ethnique de ses employés. La candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en 2015 a fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés, d'après les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête.
Nouveau gouvernement, République centrafricaine, le ministre de la fonction publique, Bertin Béa, secrétaire général du parti de l'ancien président François Bozizé, a annoncé ce mardi avoir démissionné du cabinet nommé dimanche dernier. Une décision prise à la lumière de la publication de la composition du gouvernement d'après son parti. Ce nouveau gouvernement, supposé inclusif, d'après les termes de l'accord de paix signé début février entre Bangui et les 14 groupes armés, a mis à mal l'accord de Khartoum, estime certains certains signataires.
Plusieurs milliers d'étudiants algériens défilent à nouveau ce mardi à Alger, la capitale, et dans plusieurs villes du pays contre la cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Ils rejettent les promesses du chef de l'État de réformer et de ne pas aller au bout de son éventuel nouveau mandat. Compte rendu, Irénée Herman Umbo.
Et Bouteflika, il n'y aura pas de cinquième mandat ou ramener les commandos de l'armée et la BRI, il n'y aura pas de cinquième mandat, scandent les étudiants dans le centre d'Alger. Ils sont applaudis par les passants avec des coups de klaxon par les automobilistes. Ils sont venus par milliers des universités d'Oran, de Constantine et d'Annaba pour exprimer leur mécontentement. Des manifestations ont eu lieu également à Béghaïa, à l'est d'Alger, en Kabylie, à Blida, Bioura ou Tizi Ouzou, ainsi qu'à Sétif et Tlemcen, selon le quotidien El Watan. Le président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, est la cible d'une contestation déclenchée par l'annonce de sa volonté de briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle du 18 avril. Le chef de l'État a annoncé dans une lettre lue à la télévision nationale qu'il n'allait pas au bout de son mandat s'il était réélu. Monsieur Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, souffre des séquelles d'un AVC. Il est actuellement hospitalisé en Suisse pour une visite dite de routine.
Au Soudan, les autorités ont libéré un leader de l'opposition arrêté en marge du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre dernier. Omar El Deghir, chef du parti du Congrès soudanais, avait été appréhendé 10 jours après le début des manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Malgré la répression des autorités, les rassemblements se sont rapidement transformés en un mouvement de contestation réclamant la démission du président Omar El-Béchir au pouvoir depuis un coup d'État en 1989.
Au Mozambique, un journaliste emprisonné depuis 2 mois dans le nord du pays, région en proie à une violente insurrection islamiste, se trouve dans une situation critique alors qu'il est privé de traitement médical.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ce n'était arrivé qu'une fois il y a 10 ans. Des chercheurs ont confirmé aujourd'hui qu'un deuxième patient atteint du sida s'était remis de la maladie. Il s'agit d'une rémission durable après que le patient a interrompu son traitement, un résultat qui ouvre la perspective de réussir un jour à guérir du VIH. Abdourahman Zia nous en dit davantage.
Ce deuxième cas, connu comme le patient de Londres, n'a pas montré de signe de la maladie depuis près de 19 mois, selon les chercheurs dans le journal Nature. Les deux patients ont subi des transplantations de moelle osseuse pour traiter des cancers du sang en recevant des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. En parvenant à une rémission sur un deuxième patient tout en utilisant une approche similaire, nous avons montré que le premier patient ou patient de Berlin n'a pas été une anomalie, s'est félicité le principal chercheur Ravindra Gupta, professeur à l'université de Cambridge. Des millions de personnes infectées par le VIH à travers le monde contrôlent cette maladie à l'aide des antirétroviraux qu'ils doivent prendre à vie. Mais ce traitement ne débarrasse pas les patients du virus. Cela représente un défi particulier dans les pays en voie de développement où des millions de personnes n'ont pas accès à un traitement adéquat, a dit le chercheur. Près de 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, mais seuls 59% d'entre elles ont accès aux antirétroviraux. Près d'un million de personnes meurent chaque année d'infections liées au sida.
En Syrie, des centaines de personnes ont été évacuées du village de Baghouz, l'ultime bastion du groupe État islamique dans l'est du pays, sous la supervision des forces démocratiques syriennes. Cette coalition arabo-kurde a ralenti depuis dimanche son assaut contre le dernier réduit des combattants djihadistes pour permettre aux civils qui veulent se rendre et aux combattants qui veulent se rendre de quitter l'enclave.
Les tensions persistent entre l'Inde et le Pakistan. La marine pakistanaise dit avoir empêché un sous-marin indien d'entrer dans ses eaux territoriales.
En France, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a qualifié d'attaque terroriste l'agression au couteau ce matin de 2 surveillants par un détenu radicalisé dans une prison de l'ouest du pays. Ce détenu de 27 ans est toujours retranché avec sa femme dans l'unité de vie familiale de la prison de Condé-sur-Sarthe, a déclaré la ministre lors d'un point presse.
Et puis, ici aux États-Unis, le président Donald Trump accuse les démocrates du plus grand grand abus de pouvoir de l'histoire de ce pays. Déclaration faite alors que les démocrates ont lancé une batterie d'enquêtes parlementaires à l'encontre du locataire de la Maison Blanche. Ces enquêtes portent sur les soupçons de collusion avec la Russie, les paiements pour acheter le silence de maîtresse supposée et son entreprise familiale.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir.
Et maintenant, un résumé de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
16 milliards de dollars, c'est le montant des pertes enregistrées par le Nigeria à la faveur des compagnies pétrolières de 2008 à 2017. Elle pourrait atteindre 28 milliards de dollars si l'on inclut des recettes venant de deux licences non comptabilisées. C'est la conclusion du nouveau rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria. La Tribune écrit que ces pertes sont dues à la non-révision des contrats de partage de production avec les sociétés pétrolières. Un examen urgent des guichets uniques s'impose pour limiter les énormes pertes de revenus subies par le pays. L'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 0,8% en 2018 après un début d'année marqué par la récession. Selon l'Agence nationale des statistiques, cette croissance a été juste suffisante pour permettre à l'économie de sortir du rouge. La finance, l'immobilier et le commerce en sont les principaux moteurs. Par contre, l'agriculture, la construction et les mines ont eu de très mauvais résultats. La production d'or a ainsi chuté à 14,5%, la plus importante baisse annuelle depuis 2008. Terminons avec le Soudan qui a baissé son taux de change de douane à 15 livres soudanaises par dollar contre 18 auparavant. Il a également réduit de 75% les frais de stockage pour les cargaisons et les conteneurs bloqués dans les ports entre le 1er et le 25 février.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Huitième de finale retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, c'est à partir de 20h temps universel avec Real Madrid, Ajax, Amsterdam et Borussia Dortmund, Tottenham, battu à domicile à l'aller 2-1. L'Ajax comptera notamment sur son joyau marocain Hakim Ziyech pour tenter de renverser les Merengues qui n'ont plus que cette compétition pour sauver leur saison. Un autre marocain, Nusayir Mazraoui, et le gardien camerounais André Onana doivent aussi débuter côté Ajax dans l'autre affiche du jour. L'Ivoirien Serge Aurier et le Kenyan Victor Wanyama sont pressentis titulaires pour permettre à Tottenham de composter son billet pour les cas. En face, avec 3 buts de retard à remonter, le Borussia Dortmund du Marocain Achraf Hakimi aura besoin d'un exploit à l'Iduna Park.
Morel et Anissé dans la liste de Madagascar contre le Sénégal.
Oui, déjà qualifié pour la CAN en 2019, le Sénégal et Madagascar s'affrontent lors d'une rencontre sans enjeu à Thiès le 23 mars prochain. Et pour ce déplacement, le sélectionneur des Baréas, Nicolas Dupuis, a dévoilé une liste de 20 joueurs. On note le retour du cadre Abel Anissé de Ludogorets, blessé durant plusieurs mois et qui retrouve la sélection avec le gardien Melvin Adrien, plus appelé depuis un an. Pour le reste, c'est du classique avec, entre autres, Jérémy Morel et Faneva.
Saison terminée pour Souleymane Bamba.
Oui, le défenseur international ivoirien s'est rompu le ligament croisé ce week-end en Première Ligue. Remplacé en première période par le Gabonais Bruno Ekwele Manga face à Wolverhampton, on ne le verra plus sur les pelouses jusqu'à la fin de la saison. Souleymane Bamba va se faire opérer demain. Un coup dur pour Cardiff, déjà en grande difficulté en championnat. L'éléphant a notamment effectué 81 interceptions cette saison, plus que tout autre joueur de Première Ligue, et est le meilleur buteur des Bluebirds avec 5 réalisations.
Et Yacouba, la mère d'un footballeur nigérian libéré par ses ravisseurs.
Oui, la mère de l'international Samuel Kalou, attaquant de Bordeaux, a été libérée après près d'une semaine aux mains de ses ravisseurs. Ozurunye Juliette Kalou a été enlevée le 27 février dans l'état d'Abia, dans le sud-est du Nigeria, alors qu'elle était en voiture. Selon la presse locale, la rançon réclamée par ses ravisseurs s'élevait à 36 000 euros, mais la police n'a pas confirmé si de l'argent a été versé ou pas. Pendant le Mondial 2018, on se rappelle, avant la rencontre entre le Nigeria et l'Argentine, le père de John Obi Mikel, capitaine des Super Eagles, avait été kidnappé pour la seconde fois dans l'état d'Enugu avant d'être relâché.
Merci Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Morgane Kiriek et Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique.
Et retour en Algérie, Morgane. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika a été officiellement déposée au Conseil constitutionnel hier, lundi. Invisible du grand public, car hospitalisé en Suisse, son dossier a été remis par son équipe de campagne. Aujourd'hui, dans les rues d'Alger et dans plusieurs villes du pays, les manifestations continuent pour protester contre cette candidature à un cinquième mandat. Raissa Girondin a joint ce sujet Fatah Bendali, membre du Conseil national Jil Jadid.
La candidature de Bouteflika qui a été la goutte qui a fait déborder le vase en disant que basta, c'est terminé. Donc c'est une lame de fond qui a émergé il y a plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, et qui atteint maintenant son pic.
Le président Bouteflika a publié une lettre au moment de sa candidature pour organiser lui-même la rupture, la transition et sa succession dans un an. Alors qu'est-ce qu'il faut croire et retenir du contenu de cette lettre ?
J'aurais tendance à dire pas grand-chose, pour la simple raison que il annonce, entre autres, qu'il a bien entendu le peuple alors qu'il maintient sa candidature, d'une part, il est quand même un comble. Deuxièmement, il dit que je me porte candidat, mais pour un an. Alors, pourquoi un an ? Et s'il estime que les changements auxquels aspire le peuple peuvent se faire en un an, pourquoi ne les a-t-il pas fait en 20 ans qu'il est au pouvoir ? Donc, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Et en projetant aussi, ou en promettant une mise à plat de la Constitution et sa révision par voie référendaire. Alors que pour rappeler à vos auditeurs, il a utilisé au moins deux reprises la modification de la Constitution, mais par voie parlementaire des deux chambres qui ont été à sa cause et qui étaient affiliées.
Et il a dit vouloir tenir cette conférence inclusive pour débattre. Alors, est-ce que ce ne serait pas un signe de changement dans la politique algérienne ?
Le système dans sa globalité a perdu toute crédibilité. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, une fois que les gens sont dans la rue, qu'ils acclament le départ de ce régime, on va le croire une énième fois. Et force est de constater qu'il n'a pas tenu ses promesses.
Sur les réseaux sociaux, il y a des appels à manifester après la prière du vendredi à la Grande Mosquée. Ils l'ont même appelé l'acte 2. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Le vendredi, c'est un jour où les Algériens ne travaillent pas. Et ça sera pas le premier vendredi où les Algériens appellent les compatriotes à manifester. L'appel du 8 mars qui va venir est aussi fort dans la continuité, parce qu'il n'est pas question de lâcher la pression. Bien au contraire, c'est la pression va continuer et le combat continue. Et le peuple l'a bien démontré, avec le petit détail près que le 8 mars, comme vous le savez, c'est la journée de la femme, et à travers lequel les femmes vont tenir leur pleine place pour manifester et dire également de leur côté non à ce système.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Au Zimbabwe, la flambée du prix du pain oblige les citoyens à rechercher des alternatives dans un contexte de pénurie alimentaire. Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa dit qu'il travaille pour rendre le pain abordable. Un reportage de Columbus Mavunga à Harare, rendu par Lionel Gaïma.
Au Zimbabwe, une simple baguette de pain coûte au moins 2 dollars, voire plus, ce qui le rend inaccessible aux personnes démunies. Cela n'empêche pas les Zimbabwéens de savourer leur thé dans la pure tradition britannique, mais sans pain bien sûr. Gibson Emma a 63 ans.
Le pain est maintenant trop cher. Parfois nous prenons de la bouillie, des patates douces ou des légumes verts. Si nous pouvons avoir du pain une fois par semaine, ça va. On s'en passe car c'est cher. Si le gouvernement faisait baisser le prix du pain et de la farine, ce serait bien.
Du coup, les ventes de pommes de terre et autres substituts sont en plein essor. Alwin Mutero est un vendeur de pain.
People used to buy bread a lot.
Les gens achetaient beaucoup de pain, mais ces jours-ci, ils n'en achètent plus. Regardez les étagères. Nous vendions le pain à environ 1 dollar. Maintenant, il coûte près de 2,50 $ et les gens n'ont pas les moyens.
Le ministre de l'Industrie, Mangali Sondlovu, s'est dit conscient du problème.
Nous travaillons avec les boulangeries sur la disponibilité du pain et le prix. Il est possible d'avoir un pain à 100% zimbabwéen. Nous tenons beaucoup à ce que le pain soit disponible à des prix abordables.
Le secteur agricole bat de l'aile depuis 2000 suite à la décision du gouvernement d'exproprier les fermiers blancs pour donner leurs terres à des exploitants noirs moins expérimentés. Ben Gelpin est membre de l'Union des fermiers commerciaux du Zimbabwe.
La réforme agraire a eu un impact sur la production de blé. Il est tombé à un niveau très bas à un moment donné. Les agriculteurs ont besoin d'un prix décent. Les meuniers doivent couvrir leurs frais et les entrepreneurs s'approvisionner à des prix abordables.
En attendant une solution à cette situation, les Zimbabwéens devront continuer avec des solutions de rechange comme les citrouilles et autres patates douces à la place de leur pain quotidien.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Direction République démocratique du Congo, plus de 4000 creuseurs artisanaux de la société minière de Bisunzu risquent d'être mis au chômage après le changement du système de traçabilité par leur employeur depuis décembre dernier. La commission de lutte contre la fraude minière au Nord Kivu, une structure gouvernementale, appelle les parties concernées à faire des concessions. De Goma, le reportage de Charlie Kasereka.
À Rubaya, dans les territoires de Masisi, 45 km ouest de Goma, la SMB, société minière de Bisunzu, encadre à ce jour plus de 4000 creuseurs artisanaux qui demandent aujourd'hui la réouverture des marchés pour leurs employeurs. Aboubakar Amissi et Émile Bachiré, tous des creuseurs artisanaux, ils s'expliquent ici tour à tour.
Qu'ils s'efforcent pour nous payer. Nous n'avons plus même à manger. Nous avons besoin de notre salaire. Tous les travaux sont actuellement bloqués. Il nous faut de l'argent. Certains creuseurs nous ont fui déjà. On ne sait plus les payer.
Les problèmes commencent en décembre quand la SMB change des systèmes de traçabilité de la société ITRI pour la BSP à ce qui concerne la traçabilité de ces minerais. Le directeur général appelle le gouvernement congolais à lui faciliter la tâche pour écouler ces minerais. Plus de 200 tonnes de minerais bloqués ici au Nord Kivu. Ben Mwangachuchu, DG de la SMB.
Pendant 5 ans, on a travaillé ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais je résilie le contrat le 14 je crois décembre 2018 et puis d'un coup le 15 on commence à inonder le monde entier des incidents et nous avons 4 conteneurs qui sont bloqués ici à Goma et c'est injuste. Nous avons eu une bonne réaction au niveau des autorités provinciales et nous attendons que les autorités aussi nationales puissent à convoquer ITRI et leur demander pourquoi.
Pour les responsables de la commission d'élite contre la fraude minière au Nord Kivu, les creuseurs artisanaux doivent être remis dans leurs droits. Daniel Mbaye et le coordonnateur de cette commission.
Je compatis à tous ces creuseurs qui souffrent. Ils sont censés être payés immédiatement. SMB a travaillé avec ITRI, qui a beaucoup de faiblesses comme toute autre initiative, et qu'il a estimé qu'à ce stade, il voulait changer de partenaire et qu'il travaille maintenant avec BSP. Les choses devaient aller normalement, sans problème. Les minerais enfuités devaient être vendus. Mais il se fait qu'il y a des problèmes des acheteurs. C'est que nous demanderons prochainement que le gouvernement fasse aussi des efforts. Nous allons faire des propositions pour que nous entrions nous-mêmes en contact avec les acheteurs.
Tous nos efforts pour avoir une réaction de la société ITRI n'ont rien produit. Sur terrain, à Rubaya, dans les Masisi, ouest de Goma, le territoire est confronté à une insécurité qui est déjà palpable avec une attaque armée le week-end dernier visant l'un des stocks de la SMB. Un élément de la police commis à la gare de Dissit a été tué. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
En prélude à la journée de la femme, nous vous proposons une série de reportages portraits au Sénégal sur des femmes dites « gagnent peu », qui s'en sortent difficilement, mais qui parviennent à nourrir leur famille grâce à leurs activités. Pour commencer, le portrait de Fatou Diallo, une dame d'une soixantaine d'années, qui est partie de peu et qui est parvenue, à force d'efforts et de sacrifices, à bâtir sa maison grâce à la vente de fruits saisonniers. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagueye.
Sa silhouette frêle, sa petite taille et son visage ridé laissent transparaître son âge assez avancé. Fatou doute de son âge exact, mais elle confie que ça tourne autour de 60 ans. Vendeuse de fruits au marché Sandaga, cette native de Pikine, un département populaire de Dakar, exerce cette activité depuis des années.
Ça fait plus de 10 ans que je vends des fruits depuis le règne du président Abdou Diouf. Je vends des fruits saisonniers, des mades, des melons, pastèques, oranges, entre autres. Je rends grâce à Dieu et je rends hommage à mes parents.
Veuve depuis 10 ans, Fatou assure toute seule les charges familiales. Décrite comme une personne sensible, courageuse, intuitive et battante, Fatou Diallo sort du lit tous les jours à 4h du matin pour gagner sa vie dignement.
Je m'approvisionne au marché syndicat à Pikine. Je me réveille tous les jours à 4h du matin. À 6h, je prends le taxi, le plan d'eau, parfois même le bus pour venir ici à Sandaga.
Son abnégation a porté ses fruits, car c'est grâce à la vente de fruits que Mère Fatou, comme l'appelle affectueusement ses petits-enfants, a pu acheter une maison à Pikine.
J'ai bâti ma maison grâce à cette activité. J'assure les charges familiales, je paie l'eau, l'électricité. Si j'ai aussi à faire tout cela, c'est parce que je n'ai jamais voulu baisser les bras. Je n'aime pas tendre les mains.
Quand tout va bien, on peut compter sur les autres, mais quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. C'est pourquoi Fatou Diallo affirme que sa progéniture est sa force et son plus grand soutien.
Je bénéficie aussi du soutien de ma famille. J'ai des enfants formidables. Nous nous aidons mutuellement.
Dynamique et joviale, voici le message que Fatou adresse aux femmes du monde. Elle leur demande de croire en elle, car la plus grande force d'une femme est sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles de la vie. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, c'est avec ces quelques notes de musique Mama Africa que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Cheikh Thierro. C'est notre ami Cornelius qui a assuré la partie technique.
Et merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Morgane Guériac et Jacques Aristide dans la capitale américaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.
d'abord.